Vous écoutez
RMC.
RMC.
On s'est bien fait entuber par un arbitrage maison.
Un arbitre de touche, il décide de l'issue d'une rencontre comme ça. Et lui, je sais pas ce qu'il avait, mais il voulait pas qu'on gagne.
Et on a marre de cet arbitrage français. Et on nous explique que l'arbitrage français est le meilleur de France.
Quand ils vont siffler un pénalty à Lyon, bah, ils le sifflent plus. Il faut vraiment qu'il soit flagrant. Hein.
C'est jamais là, c'est qu'on roule. C'est jamais là, c'est qu'on roule.
RMC, l'afterfoot.
Karine Galli.
23h01 sur RMC, on est ensemble jusqu'à minuit, l'after foot avec Kevin Diaz, avec Fabrice Hawkins, avec Maxime Chano. Vous le savez, RMC est déjà à l'heure de la Coupe du Monde et nous vous offrons des albums Panini Coupe du Monde absolument magnifiques avec 350 stickers. Toutes les 30 minutes, il y a un gagnant qui est tiré au sort. Pour gagner, il suffit d'envoyer dès maintenant Panini au 732-16, Panini au 732-16 et être évidemment tiré au sort. Bonne chance à tous. Vous le savez, RMC Radio officielle du Mondial. Ça se passe du 11 juin au 19 juillet. Et on va évidemment se tourner vers les nations qualifiées. La première Coupe du Monde à 48. Camille Borin, le Maroc est opposé à la Norvège et ça vient de se terminer, c'est ça ?
Oui, ça vient de se terminer sur un match nul, Karine. Un partout entre le Maroc et la Norvège. Je rappelle que ce match, il nous intéressait parce que la Norvège est dans le groupe de la France, dans le groupe I. Ils affronteront en premier l'Irak le 16 juin, le Sénégal le 22 juin et donc les Bleus le 26 juin à Boston. Et puis côté marocain, ils vont commencer leur Coupe du Monde en affrontant le Brésil le 13 juin, puis l'Écosse le 19 juin et Haïti le 24 juin. Mais pour ce dernier match de préparation, il y a un partout entre le Maroc et la Norvège et c'est terminé.
Merci beaucoup. On rappelle donc Diaz qui a marqué le premier but et c'est Odegaard qui a égalisé pour la Norvège. On accueille tout de suite Saïd Hamda qu'on connaît bien parce qu'il a notamment vécu la CAN avec nous en direct du Maroc cet hiver. Bonsoir Saïd, merci beaucoup d'être
Saïd.
Avec nous.
Salut Saïd.
Salut à tous, bonsoir.
Salut Saïd.
Saïd, journaliste Squad, on va parler avec toi du Maroc. Alors forcément, le Maroc est ambitieux, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Je sais plus quoi dire pour la dernière CAN, on dit quoi, vainqueur au final? En tout cas, bon, finaliste, ça c'est sûr.
Bah, personne ne sait.
Jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, c'est vainqueur. Le TAS décidera si on maintient ou pas. Mais dans les statuts, pour l'instant, Maroc vainqueur.
Écoute, très bien. En tout cas, le Maroc était arrivé jusqu'en finale de sa CAN. Et il y a un flou derrière.
N'ont pas la même lecture.
Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, la coupe, elle est au Sénégal.
Voilà.
Jusqu'à preuve du contraire.
C'est toujours une petite difficulté, mais en tout cas, bon, le Maroc était au rendez-vous de sa compétition. On le rappelle, où il y avait énormément de pression. Alors depuis, il y a eu effectivement un changement de sélectionneur. On le rappelle, Regragui n'est pas resté. Aujourd'hui, c'est Mohamed Wahbi, le sélectionneur. Est-ce que le Maroc peut faire mieux ou aussi bien qu'en 2022? Quels sont les sons de cloche côté marocain, Saïd?
Oui, le Maroc peut faire aussi bien qu'en 2022. D'ailleurs, c'est l'objectif. Les Marocains aujourd'hui, grâce à cette performance en 2022, ont rehaussé le niveau des ambitions et ont envie justement d'atteindre ce dernier carré de la Coupe du Monde. L'idée, ce serait au minimum de faire quart de finale, puisque sur cette édition, à 48 équipes, il y a un tour de plus, donc ça reviendrait un peu être l'équivalent. Mais forcément, le Maroc ne vient pas du tout faire de la figuration. Il y a une grosse pression populaire, une grosse pression aussi de la fédération qui a investi beaucoup d'argent, qui a investi aussi dans le centre d'entraînement, qui a investi aussi sur les binationaux avec Ayoub Bouadi qui rejoint du coup le Maroc pour cette Coupe du Monde. Donc évidemment les ambitions sont très très élevées et le Maroc y va pour essayer de faire aussi bien qu'en 2022 puisque ce dernier carré en 2022 a apporté un tel rayonnement à l'international que pour le Maroc il va falloir confirmer. Tout le monde dans le monde entier pense que le Maroc est une équipe vraiment très intéressante. Maintenant, il va falloir confirmer et pas montrer que 2022 était simplement une parenthèse.
Tu viens d'en parler, hein, Bouadi qui était notamment titulaire ce soir. Il y avait évidemment Hakimi, le capitaine, il y avait Diaz, il y avait Unai. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation des Marocains face à la Norvège? On rappelle, les deux équipes sont qualifiées pour la Coupe du Monde. Et du côté de la Norvège, ça nous intéresse aussi, nous, parce que les Norvégiens sont dans le groupe des Français.
Honnêtement, prestation plutôt solide de la part du Maroc. Le Maroc a quand même plutôt maîtrisé notamment la première période avec beaucoup d'occasions. C'est vrai que le match se termine à un partout, mais en termes d'occasions purement franches, le Maroc en a eu quand même pas mal. On pourrait peut-être s'inquiéter du nombre de ratés du Maroc parce qu'effectivement, Brahim Diaz a réussi à marquer son but, mais le Maroc aurait pu s'en sortir avec deux, voire trois buts. Les Norvégiens n'ont pas été dangereux, notamment en première mi-temps, peu plus
deuxième mi-temps,
en seconde.
C'était différent, hein, ça s'est rééquilibré quand même.
Absolument, un peu plus en seconde puisque le Maroc a effectué des changements. D'ailleurs, tous les joueurs marocains Marocains sont sortis au fur et à mesure du match, et notamment à l'heure de jeu où une grosse salve des changements ont été faites. Et donc le rapport de force est équilibré forcément, et d'ailleurs c'est à ce moment-là aussi où la Norvège égalise par l'intermédiaire de Martin Ødegaard. Donc ça a été plutôt un match intéressant côté marocain. Faut rester quand même concentré sur la finition, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de ratés, et en Coupe du Monde, le Maroc ne va peut-être pas pouvoir se permettre de rater autant d'occasions. Et sinon, sur l'assise défensive, le Maroc s'en est quand même globalement bien sorti. Il faut savoir que c'est le secteur de jeu où il y a le plus de questions, puisque Naïef Aguerd n'était même pas sur la feuille de match, encore un petit peu en blessure. Après, il récupère encore un petit peu.
Son opération quand il était à Marseille, effectivement.
On a des nouvelles de Zouli, d'ailleurs, de Abdelzouli qui est sorti sur blessure.
Alors il y a deux joueurs qui sont sortis plus ou moins pour des gènes. Donc effectivement Abdel Zalzouli, à l'instant T là, comme le match vient à peine de se terminer, je n'ai pas spécialement d'informations sur la nature de sa blessure.
Ça a l'air inquiétant ou
Oui et non, parce que quand il prend le coup, il reste quand même quelques minutes après sur la pelouse, et c'est ensuite qu'il se couche au sol. Donc c'est toute une question d'interprétation. On peut se dire qu'il a quand même continué après avoir pris le coup, mais il a été quand même contraint de sortir. Je pense que le sélectionneur Mohamed Wahbi n'a pas voulu prendre de risque avec Abdel Zalzouli, qui sera un titulaire en puissance.
C'est pour ça que je te pose la question. Il faut espérer que ce soit pas trop grave, quoi.
Voilà, faut espérer que ça soit pas trop grave, parce que le Maroc va beaucoup beaucoup compter sur ce joueur, et c'est un petit peu un cas similaire avec Nusayr Mazraoui aussi, qui est sorti assez tôt dans la partie par précaution. Le Maroc va essayer de ne perdre aucun joueur, surtout sur ce dernier match de préparation. On en saura un peu plus dans les prochains jours, les prochaines heures. Mais moi, si on me demande simplement mon avis aujourd'hui, je suis pas spécialement inquiet au vu de la nature des blessures.
Oui, après attention, parce que moi j'ai pas vu tout le match. On a regardé d'un œil notamment la fin de match, et là je regarde les occasions, il y a quand même beaucoup d'occasions pour la Norvège.
Hein. Oui, en deuxième mi-temps, je pense que
bien sûr.
Le rapport de force.
Là, je viens de voir un but invalidé pour Sorloth, là, quand il met un coup d'épaule, il n'y a jamais faute. Hein.
Non, deuxième mi-temps, je pense qu'il n'y a presque pas photo. Alors, est-ce que aussi, parce que les Marocains, il y avait beaucoup de changements, tu l'as très justement dit, mais c'est vrai que le rapport de force, autant qu'en première mi-temps, les Marocains ont dominé, deuxième mi-temps, il n'y avait presque qu'une équipe, il n'y avait pas photo. Alors, moi, pour revenir par rapport à la dynamique de cette équipe nationale, mais je pense qu'il y a des certitudes, et tu l'as très justement dit, mais aussi des questionnements, et notamment l'arrivée du nouvel entraîneur Mohamed Wahbi. C'est vrai que la fédération marocaine a dû faire un peu un travail d'urgence, parce qu'on rappelle, Regragui a décidé de s'en aller, il me semble, en mars, donc ça laissait seulement 2 ou 3 mois pour pouvoir retrouver quelqu'un. Wahbi, c'est un coach qui a eu quand même de la réussite, notamment. Alors je suis pas sûr, tu vas me confirmer ça, mais je pense que c'est lui l'entraîneur qui a gagné le mondial U20, c'est possible?
Absolument, oui, absolument.
Donc c'est vrai qu'il est plus considéré quand même comme un formateur que comme un entraîneur du très haut niveau, du top niveau. Après, quand tu regardes aussi, c'est intéressant, mais cette sélection, elle fonctionne bien, elle marche bien, elle a très très bien évolué. Donc il y a évidemment cette Coupe du Monde 2022 avec ce super parcours. Derrière, t'as cette équipe U20 là qui gagne le championnat du monde U20, et puis surtout t'as cette CAN, où est-ce que, même si bon, il y a les polémiques, on va revenir dessus, on en reviendra plus dessus parce qu'on en a assez parlé, je veux dire, mais en tout cas c'est quand même une sélection qui fonctionne bien. Tu l'as aussi très justement dit, c'est vrai que ça va être différent, parce que dans la mesure où il y a plus d'équipes qualifiées, et là il y a un tour de plus en 16e de finale, donc ça voudrait dire que pour atteindre les demi-finales et de refaire au moins aussi bien qu'en 2022, il faudrait gagner un match supplémentaire. Mais c'est vrai qu'il y a quand même énormément d'individualités qui fonctionnent bien. Moi, je suis très heureux de voir le petit Boadi rejoindre les Lions de l'Atlas. Je pense que c'est vraiment un super message pour les binationaux. Et puis, derrière, vous avez des certitudes. Bounou au but, moi, je trouve très, très bon, qui a fait une grande CAN. Et puis, évidemment, Saïbari, qui est un peu le leader d'attaque avec un Brahim Diaz. Je pense que le Maroc a des qualités. Après, on va voir comment les joueurs vont réagir, évidemment, à leur premier match. Mais c'est vrai que quand tu regardes la Norvège, pour terminer sur mon analyse, c'est vrai que la deuxième mi-temps, c'était quand même assez poussif. Hein.
Bah, il y a des vrais bons joueurs, surtout. Il y a des vrais bons joueurs, tu l'as dit, Max, sur toutes les lignes maintenant, avec le renfort des binationaux qu'il y a eu, Diop en défense, évidemment, Boadi. Je ne vais pas tous les citer, mais c'est vrai qu'il y a des bons joueurs qui viennent s'ajouter. Déjà, une équipe qui fonctionnait plutôt bien. Et ce qui me fait dire que, et on l'a vu contre la Norvège notamment, il n'y a aucune équipe qui va prendre cette sélection à la légère. Et je pense que ça va être un nouveau défi pour eux, parce qu'ils vont jouer contre des équipes, exactement, qui vont les attendre, et qui vont les attendre de pied ferme. Et c'est de voir justement comment ils vont réagir, parce que, on l'a pas dit, mais il y a pas mal de jeunes joueurs aussi, hein. Il y a beaucoup de talent, mais il y a pas mal de jeunes joueurs. Donc comment est-ce qu'ils vont réagir avec ce niveau de compétitivité, cette adversité-là aussi? Ça va être tout l'enjeu aussi du Maroc, de savoir s'ils peuvent, se mettre au niveau.
Saïd Hamda, journaliste et notre invité sur RMC. Saïd, je voudrais savoir quelles sont les différences depuis que Mohamed Wahbi a pris la tête des Lions d'Atlas et le fait que vous commenciez par l'adversaire le plus fort. Qu'est-ce que ça amène dans la préparation que le Maroc est en train de faire en vue du 14 juin? Donc on le rappelle, c'est Brésil-Maroc et après c'est d'un autre niveau, Écosse et Haïti.
Bien sûr, je suis d'accord avec l'ensemble des choses qui se sont dites sur le plateau. Le Maroc est une équipe très jeune, 25 ans et quelques de moyenne d'âge. Donc ça va être plus dur pour le Maroc en 2022, puisqu'en 2022, personne n'attendait le Maroc à cette Coupe du Monde. Là, aujourd'hui, le Maroc a un statut. Donc forcément, il y a beaucoup il y a beaucoup moins de surprises. Maintenant, Mohamed Wahbi travaille de manière assez différente par rapport à Walid Regragui, pour répondre à la question. C'est que Mohamed Wahbi a eu tellement peu de temps qu'il a décidé de convoquer, bon, sur le rassemblement de mars, une première salve de joueurs un peu dans la précipitation. Mais là, lors du mois de juin, il a convoqué un groupe élargi. Donc, en fonction du vivier marocain, il a fait un stage pré-sélection, on va dire ça, avec beaucoup de joueurs qui sont potentiellement sélectionnables. Et en fonction de ça, il a analysé pas mal de joueurs, avec certains qu'il a gardés. Et il y a aujourd'hui aussi trois réservistes côté marocain, d'ailleurs, qui sont toujours dans le groupe et qui quitteront le groupe au début du mondial. Donc il y a une façon de voir le football beaucoup plus large, où Mohamed Wahbi ne cesse de répéter qu'il veut promouvoir la méritocratie, qu'il a envie que chacun ait sa chance. Et d'ailleurs, dans la liste, il y a un joueur comme Ayoub Amaimouni, qui est la surprise de cette liste. Personne ne s'attendait à le voir, et finalement, il va disputer sa première Coupe du Monde. Donc effectivement, le Maroc a un groupe très jeune, va affronter dès le départ le Brésil. Selon moi, c'est une bonne chose, parce que tout de suite, ça vous fait rentrer dans la compétition. Et comme en 2022, le Maroc a commencé avec un gros poisson, puisque le premier match en 2022, c'était Maroc-Croatie. Et Croatie était le dernier finaliste de la précédente Coupe du Monde, donc à savoir celle de 2018. Et forcément, c'est un match que tout le monde attend. Et ça va permettre aussi au Maroc de pouvoir jauger le reste de sa compétition. Si le Maroc perd déjà contre le plus gros adversaire, à savoir le Brésil, forcément, ils savent que face à l'Écosse et face à Haïti, ils sont un petit peu au pied du mur. Ils vont devoir y aller à 200%. Et si le Maroc bat le Brésil, voilà, ils savent qu'ils ont de la marge. Aujourd'hui, avec 3 points, on est sûr quasiment de se qualifier à 75%, ce qui est assez confortable. Donc, il faudra peut-être éventuellement qu'un nul face à l'Écosse ou face à Haïti pour passer. Et donc, ça va permettre peut-être aussi de faire tourner l'effectif, de permettre à d'autres joueurs de jouer ou de tenter des choses tactiques, parce que Mohamed Wahbi a envie de tenter pas mal de choses tactiquement. Il a encore fait des...
Il vaut mieux pas le tenter pendant la compétition.
Il ne faudra pas le tenter pendant la compétition, mais si tu assures déjà ta qualification assez rapidement, ça te donne quand même encore un peu de marge. Il faut savoir que Mohamed Wahbi a eu tellement peu de temps que s'il peut se permettre ce luxe-là, je ne pense qu'il ne va pas s'en priver. Ouais. Et comme tout à l'heure on le disait, même si la première mi-temps du Maroc, et c'est pour ça que j'avais divisé mon analyse par deux, c'est que la première mi-temps du Maroc, où il y avait entre guillemets cette équipe type, c'était plutôt satisfaisant, et la deuxième mi-temps où le Maroc a beaucoup plus souffert. Donc moi, j'étais plutôt content de voir que cette première mi-temps a été globalement maîtrisée, mais il y a des interrogations. Il ne faut pas se voir plus beau que ce qu'on est réellement. La défense centrale, c'est une interrogation. Là aujourd'hui, on avait Issa Diop et Shadi Riyad, mais on n'est pas à l'abri qu'un Shadi Riyad se blesse. Ça a été son très très gros problème pendant longtemps. Donc comment on va gérer cette assise défensive-là? Et offensivement, on joue avec un faux neuf, avec Saïbari, qui n'est pas spécialement très à l'aise à ce poste-là, mais c'est l'idée de Wahbi de le laisser un peu graviter devant, alors qu'il y a des attaquants de métier comme Rahimi, comme El Kaabi. Ça aussi, il va falloir voir, est-ce que Saïbari devant, c'est assez solide pour peser, ou est-ce que c'est suffisamment bon pour permettre à l'animation offensive de fonctionner? Donc il y a toutes ces questions-là qu'il va falloir élucider à terme.
Et la non-sélection de Sofiane Boufal, est-ce que ça a fait parler au Maroc? Lui qui est quand même bien revenu sur les 6 derniers mois avec le Hub, là en Ligue 1, d'ailleurs on le sait, hein, il a décidé de rentrer en Ligue 1 justement pour être prêt pour cette Coupe du Monde, en tout cas pour être visible, lui qui jouait quand même très peu en Belgique, du côté de l'Union Saint-Gilloise. Voilà, comment ça a réagi au pays?
Non, bah en fait, Sofiane Boufal est un joueur qui est très apprécié par rapport au Mondial 2022, mais c'était déjà inespéré un petit peu qu'il soit au niveau sur cette Coupe du Monde-là. Donc effectivement, il a eu sa chance, il est arrivé au stage où il a pu montrer ce qu'il allait faire. Donc ça n'a pas choqué plus le peuple que ça que Sofiane Boufal n'ait pas fait cette Coupe du Monde, quand bien même il aurait mérité. Hein. Moi, ça ne m'aurait pas dérangé de le voir. Je pense que sur 20 minutes, c'est un joueur qui peut créer cette magie, mais ça n'a pas été un scandale d'État, si c'est ça la question, de voir son absence à cette Coupe du Monde.
Tu parlais des objectifs tout à l'heure, Saïd, avec ce quart de final peut-être, hein, qui peut être un objectif pour cette sélection. Est-ce qu'il y a la même forme de pression pression qu'il y avait sur la tête de Walid Regragui lors de la CAN. On savait que c'était quasiment ou la victoire ou la porte. Est-ce qu'il y a une grosse pression aussi sur le sélectionneur, ou si jamais ça sort en 16e de finale ou en 8e de finale, j'ai pas envie de dire que ce sera pas très grave, mais on lui en tiendra par ailleurs.
Tout dépend de l'adversaire et de la manière. Tout simplement, si tu sors en 16e de finale contre un très gros pays et que tu perds que par exemple 1-0, évidemment ça sera pas un drame national. Le Maroc sait aussi où il se positionne à l'échelle internationale. Maintenant, si on perd contre un pays qui est moins bien classé au classement FIFA et qu'on prend 2-0 ou 3-0, effectivement, ça va être une pilule assez difficile à avaler. Il y a une très grosse pression sur Mohamed Ouabi parce que depuis cette fameuse Coupe du Monde 2022 avec cette demi-finale, au Maroc, et je pense que beaucoup de Marocains le diront, le statut de la Coupe du Monde est tellement au-dessus par rapport à la CAN. Donc c'est un peu notre vitrine à nous où on a besoin de performer, de prouver qu'on n'était pas qu'un incident de parcours, qu'on n'était pas juste une petite surprise, mais qu'on a envie de s'installer dans le temps, dans les équipes qui peuvent être dangereuses à la Coupe du Monde. Donc effectivement, sortir en 16e de finale ou en 8e de finale, ça va être un peu un caillou dans la chaussure. Après, tout dépend du scénario du match, mais très très clairement, l'objectif minimal va être donc d'être en quart de finale au vu aussi des joueurs qui sont dans cette sélection-là où il y a beaucoup beaucoup de qualité. Donc on en attend évidemment beaucoup.
Il y a beaucoup de pression. 14 juin, Brésil-Maroc. Kevin, aujourd'hui, est-ce que le Maroc a plus de certitude que le Brésil? Est-ce que pour toi, le Maroc devrait sortir premier de son groupe?
Non, pour moi.
Le Brésil, c'est devant.
Ouais, pour moi, le Maroc peut sortir un premier du groupe. Tout peut arriver dans ce sport. Il y a beaucoup d'incertitudes. Par contre, pour moi, le Maroc est derrière le Brésil. Moi, j'ai dit il y a quelques jours dans l'after que pour moi, le Brésil pouvait être une surprise, entre guillemets, bien sûr, puisque le Brésil n'est jamais une surprise. Mais
Là, ça le devient, parce qu'ils n'ont plus gagné depuis 2002, donc ça serait une surprise.
On est d'accord. On est d'accord que déjà, s'ils font ne serait-ce qu'un très gros parcours en faisant une belle demi ou même en se qualifiant pour une finale, ce serait une surprise. Donc ça, c'est une surprise pour le foot que le Brésil devienne outsider. Par contre, je les vois quand même bien au-dessus du Maroc. Une équipe du Maroc qui...
Bien au-dessus, carrément.
Ah, moi, je vois le Brésil bien au-dessus du Maroc. Après, bien au-dessus, ça ne veut pas dire qu'ils vont leur mettre 3-0. Pour moi, si tu me demandes qui est favori, je dirais toujours le Brésil. Maintenant, tout à l'heure, tu as dit que peut-être que jusqu'à preuve du contraire, le Maroc a gagné la CAN. Mais moi, je pense que ça a quand même secoué cette sélection. Ça a secoué la sélection dans le sens où, voilà, on a un Brahim Diaz qui sera sûrement revanchard. Mais s'il y a un pénalty à tirer à la 89e, j'aimerais bien savoir qui va le tirer, comment il va le tirer.
Hakimi.
Donc,
ça sera pas Brahim, je peux te spoiler dès le départ.
Voilà.
Non, mais ce sera pas Brahim.
Tu vois ce que je veux dire. Après, ça reste une sélection où il y a énormément de talent et où ils peuvent faire un très très beau parcours, mais ça reste des outsiders pour moi.
Merci beaucoup. Après, oui, Saïd, le mot de la fin.
Juste pour la précision, sur la dernière confrontation entre le Brésil et le Maroc, c'était en 2023, juste après la Coupe du Monde, et le Maroc avait gagné 2-1. Voilà, je vous donne cette petite chips-là.
Merci beaucoup Saïd Hamda d'avoir été avec nous, journaliste spécialiste du Maroc, et tu officies à Squad. Merci beaucoup. Dans quelques instants, on va continuer de parler des équipes présentes lors du Mondial et on va aller en Allemagne, parce que ça aussi, l'Allemagne, vous le savez, ça a été deux couacs terribles en 2018 et 2022 avec deux éliminations dès la phase de groupe. Est-ce que la Mannschaft est armée pour aller loin? Paulo Breitner va répondre à cette question. À tout de suite.